À côté, je faisais encore du volleyball, donc j'étais au Sport Lycée au Luxembourg pour le volleyball en fait. Alors moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Mathieu, j'ai 20 ans. Il y a quand même beaucoup qui s'est changé dans mon environnement. J'ai changé de domicile pour l'hiver, donc j'habite maintenant à Innsbruck.
Salut les sportifs, c'est Hermano. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir pour ouvrir le troisième casier de ces vestiaires. Dans les deux premiers, nous avons eu la chance de découvrir des sportives françaises hors du commun qui se battent au quotidien pour financer leur carrière afin de se consacrer à 100% à leur entraînement et aux compétitions qui leur permettent de briller au plus haut niveau. Dans ce troisième épisode, je n'ai malheureusement pas eu la chance d'être accompagné par mon ami Bart du podcast Extraterrien. En tout cas, je vous propose de découvrir l'interview de Mathieu Hoche, un jeune skieur luxembourgeois qui a déjà eu la chance de participer à ses premières Olympiades d'hiver. Mais vous le savez, un grand exploit ne se réalise jamais seul. Et j'ai besoin de vous, non seulement pour aller déposer des commentaires et de superbes notes sur Apple Podcast, mais aussi pour aller contre la décision de nos amis Facebook et de toute la galaxie Instagram et Messenger, qui ont décidé de blacklister l'adresse du site vestiaire.info, le site sur lequel vous pourrez retrouver les notes détaillées de ces épisodes et les portraits des sportives et sportifs que j'interviewe. Alors je compte sur vous, allez mettre des commentaires un peu partout et puis partager ces épisodes sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Allez, fini de vous solliciter, je vous laisse écouter ce superbe épisode enregistré avec Mathieu Hoche. Salut les sportifs, c'est Hermano. Vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un sportif de haut niveau. Vous me direz, c'est normal pour ce podcast qui parle du financement des carrières de sportifs de haut niveau, mais il fallait en trouver, il fallait qu'il accepte mon invitation et j'ai la chance d'avoir Mathieu Hoche.
Bonjour.
Alors, comme je te le disais en off, juste avant de commencer cet épisode, vraiment, merci beaucoup d'accepter mon invitation et de te plier au jeu. On va rentrer dans des questions un petit peu personnelles. N'hésite pas à lever la main si ça ne te plaît pas. Juste avant de commencer, je voulais quand même remercier Jean-Louis qui nous a mis en relation. Et puis, le petit instant pub, même s'il n'a pas forcément le droit, mais là, c'est pas de la pub, ça vient du fond du cœur. Si vous cherchez un kiné du côté du Luxembourg, vous n'hésitez pas, vous me contactez, je vous mettrai en relation. C'est vraiment quelqu'un de super.
Ah, c'est vrai. Je peux confirmer.
Alors du coup, j'imagine que toi, Jean-Louis, tu le connais parce qu'il te suit dans le cadre de ton traitement régulier.
Oui, Jean-Louis, je le connais depuis très longtemps. Déjà, ses enfants ont commencé aussi dans la fédération de ski, sont entraînés avec moi. Et puis après, plus tard, il a aussi commencé avec le COSOL, donc le comité olympique, à travailler avec eux. Donc il m'a accompagné aux Jeux 2018, il m'a accompagné l'année passée au championnat du monde et à plusieurs autres courses, il est toujours présent et c'est pour ça que je le connais depuis longtemps et que ça fonctionne bien avec nous deux.
Alors malgré tout, si j'ai bien compris, on va revenir un petit peu après sur toi et qui tu es. Là, en ce moment, tu n'es pas au Luxembourg, donc pour le traitement, c'est pas quotidien avec Jean-Louis.
Non, ça c'est vrai. Là, pour le moment, je suis en Autriche parce que je m'entraîne là, parce que les possibilités sont super ici. J'habite tout de suite à côté des montagnes. Et Jean-Louis, lui, il est au Luxembourg, mais dès que j'ai un grand événement, il part avec moi. Et dès que je suis au Luxembourg, il n'y a pas de problème, il est toujours flexible. Donc là, on n'a pas trop de problèmes. Et quand j'ai des questions, je peux lui écrire. On reste quand même toujours en contact.
Du coup, tout ça nous emmène à la première série de questions qui vont être sur toi. Déjà, j'ai donné ton nom, mais est-ce que j'ai pas écorché? C'est bien comme ça, Mathieu Hoche?
Oui, c'est correct, c'est comme ça.
Maintenant, je te donne la parole, je te donne le micro, quelques instants. Prends tout le temps que tu veux pour nous dire qui tu es, quel sport tu pratiques, au singulier ou au pluriel. Tu n'en fais peut-être pas qu'un seul, d'ailleurs. Et puis, quelles ont été tes performances? Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu as déjà participé au jeu, au championnat du monde. La parole est pour toi, je te la laisse.
Super, merci. Bon, alors moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Mathieu Hoche, j'ai 20 ans, je viens d'Ettelbruck, donc j'ai commencé le ski à 2 ans et demi, 3 ans environ, dans les Alpes françaises à Courchevel, où mes parents m'ont toujours amené. Et puis, le sport de compétition de ski, c'était toujours un truc de famille déjà, de côté de mon père. Mon père a fait des championnats du monde, mon oncle aussi, et donc mon frère aussi. Et voilà, donc c'était clair que ça allait continuer comme ça. Et donc je pense qu'autour des 8-9 ans, j'ai commencé le ski de compétition, à m'entraîner régulièrement avec la fédération de ski, surtout en indoor, parce que j'habitais encore au Luxembourg, donc à Abbeville. Et à côté, je faisais encore du volleyball, donc j'étais au Sportlycée au Luxembourg pour le volleyball en fait. Et à 17 ans, donc j'ai pris la décision. C'était après les JO jeunes à Norvège. J'avais pris la décision que j'avais envie de me concentrer plus sur le ski. Et je suis parti en Autriche dans une école de ski. Ici, ça s'appelle Skigymnasium en Autriche. Donc c'est une école où en hiver on a moins d'école et plus de temps pour le ski. En été c'est plus école, donc c'est combiné. Et donc j'ai fait mes 2 dernières années de lycée là, j'ai fini mon bac là. Et dans ces 2 années, il y a beaucoup qui a changé. 2018, j'avais donc la grande chance de participer aux JO d'hiver à Pyeongchang, où j'ai fait, si je me trompe pas, 62e en géant et en slalom, je suis malheureusement sorti, ce qui était une très chouette expérience que je vais jamais oublier. Mes premiers JO à 18 ans, c'était super. En plus, porteur de drapeau à la cérémonie d'ouverture, c'était vraiment un événement que je vais jamais oublier.
Génial.
L'année passée, alors j'avais aussi la chance de participer au championnat du monde, où j'étais en géant. Je me suis malheureusement pas qualifié pour la deuxième manche. J'étais 61e et ils prenaient les 60 pour la deuxième manche. Donc ça, c'était dommage. Mais bon, c'était une chouette expérience. C'était en Suède en plus. Et au slalom, je suis malheureusement sorti. Mais c'était vraiment une expérience que je vais pas oublier non plus. Mes premiers championnats du monde. Et donc voilà. Là, on recommence la saison tout doucement. Là, il y a quand même beaucoup qui s'est changé dans mon environnement. J'ai changé de domicile pour l'hiver, donc j'habite maintenant à Innsbruck. Changé d'entraîneur, changé de matériel de ski. Donc là, ça se met tout doucement en place. C'est pas encore, je suis pas encore au point où je veux être pour le moment, mais je suis sûr que ça va bientôt arriver. Et donc là, on attaque déjà les premières courses. Et donc cette année, il n'y a pas de très grand objectif. Bon, il y a bien sûr les JO. Les championnats du monde junior, donc en Norvège, où probablement je vais participer début mars. Et puis l'année prochaine, il y a bientôt, bien sûr, nouveau les championnats du monde à Cortina d'Ampezzo. Et donc voilà, donc sur mes buts, le but c'est de, bien sûr, des prochaines années d'essayer de donner le plus que j'ai et de faire peut-être un jour d'arriver dans les top 30 du monde, ça ce serait le but. On verra si ça fonctionne ou pas. Voilà.
Bon, en tout cas, c'est des beaux objectifs.
Ah oui, ça c'est clair. Bah, j'ai beaucoup investi dans le sport, c'est ce que j'aime faire et j'ai la chance que je peux vraiment le faire quasiment tous les jours et c'est génial, quoi. C'est ce que j'aime.
Là, tu viens de nous faire une transition magnifique puisqu'on allait passer sur la deuxième partie de ce podcast où on allait parler du financement de la carrière. Tu nous dis que tu as beaucoup investi. Alors, juste pour recadrer le débat, parce que la majorité de nos auditeurs sont français,
Oui.
plutôt vivant en France, donc ils savent peut-être pas ce que représente l'entraînement d'un sportif luxembourgeois pour des sports d'hiver, même si dans l'inconscient des Français, le Luxembourg est froid. Il est peut-être froid, mais il est pas. Et on n'a pas les mêmes conditions que dans les Alpes. On n'a pas des grandes montagnes, on n'a pas de la neige tout le temps. Donc, quand tu dis que tu allais t'entraîner en indoor à Amnéville, ça veut dire que de Etelbruck jusqu'à Amnéville, il y a une centaine de kilomètres, un peu plus?
Ouais, c'est 1 heure environ, une
Voilà,
heure, ouais.
donc quasiment quotidiennement, quand tu allais t'entraîner en indoor, tu faisais 100 bornes aller, 100 bornes retour pour t'entraîner. Tout ça engendre des frais, en plus du matériel, en plus d'aller à l'école. Donc si tu vas à l'école, bah tu peux pas travailler parce que l'école plus le sport, ça te fait déjà des journées bien remplies. Du coup, ma première question c'est, et même si tu es très jeune, parce que tu as 20 ans, tu as déjà fait des JO, tu as déjà fait des Coupes du Monde, ce qui est déjà un beau parcours et je t'en félicite. Mais je laisserai peut-être la partie étude, enfin analyse de toi et de tes performances et de ta vie de sportif à d'autres copains qui font ça très bien dans le podcast sportif, notamment à Bart du podcast Extraterrien qui m'accompagne pas aujourd'hui mais qui est de temps en temps est avec moi. Donc on va se concentrer sur le financement de ta carrière. Comment est-ce que dans tes jeunes années, surtout en switchant du volet au ski, tu as commencé à financer donc tes déplacements, ton matériel, donc tes déplacements pour l'entraînement au quotidien, ton matériel et tes déplacements sur les événements?
Alors, donc quand j'habitais pas encore en Autriche, quand je faisais l'entraînement maintenant du partant de Luxembourg, c'était tout financé privé. À partir du moment où je suis parti en Autriche, on est rentré en relation avec le comité olympique, qui alors était prêt à me mettre dans le cadre de promotion, ça s'appelle. Donc c'est le premier cadre dans le comité olympique où on est, donc où on reçoit de l'aide financière et d'autres aides, enfin tout ce que le comité olympique offre. Et donc j'avais ça, mais la plus grande partie c'était quand même financé par mes parents.
Pour expliquer à nos amis français, le comité olympique, c'est un organe qui vient encore après la fédération, parce qu'en France c'est souvent les fédérations qui apportent du soutien aux sportifs. Au Luxembourg c'est le comité olympique qui travaille avec les fédérations, mais qui prend notamment pour les jeunes en charge le sport lycée, donc ce qui est l'équivalent d'un sport études en France, et puis comme tu le dis, qui accompagne les sportifs pour leur apporter des aides financières pour le matériel, le déplacement et autres.
Voilà, exact, oui.
Avant de rentrer dans le cadre, avant de rentrer au sein du comité olympique, tu finançais tout sur tes moyens privés et c'était tes parents qui payaient. J'imagine que ça représentait un investissement assez conséquent, surtout que ton frère aussi était déjà dans le circuit mondial.
Bah, c'était peut-être pas aussi important qu'aujourd'hui, vu que quand j'habitais au Luxembourg, j'avais peut-être 50 journées où j'étais sur les skis, qui n'est quasiment rien pour un skieur, en fait. Je me rappelle plus des chiffres, mais c'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Et donc, c'était encore faisable, quoi. Et voilà. Donc, on n'avait pas le même niveau qu'aujourd'hui. J'avais pas besoin du même matériel, pas besoin de cette professionnalité que j'ai besoin d'aujourd'hui. À ce niveau-là, ça fonctionnait encore comme ça, quoi.
Par rapport aux sportifs français, maintenant que tu es dans ce cadre promotion et que le comité olympique intervient, j'imagine que le discours est un peu biaisé, puisque là, le comité intervient énormément pour les sportifs luxembourgeois.
Oui, voilà, oui. Bah, en fait, depuis l'année passée, depuis l'été, j'ai monté dans le cadre élite au comité olympique, donc il y a encore plus d'aide. Et depuis l'année passée aussi, la fédération a vu que j'ai réussi le critère des qualifications pour les Jeux olympiques. La fédération aussi a commencé parallèle à m'aider financièrement. Donc le comité olympique et la fédération, c'est en fait les deux parties qui m'aident financièrement, quoi. Et le comité olympique est encore un peu plus spécialisé sur tout ce qui est en été, par exemple les entraînements physiques qui mettent à disposition. J'ai un coach qui m'aide en été, qui fait mes programmes. Maintenant, avec le nouveau fitness qu'ils ont construit dans la coque, dans le centre sportif au Luxembourg, ils me donnent aussi beaucoup de possibilités encore, au lieu en plus du financier. Et donc ce budget financier, en fait, il a deux parties. Donc il a le budget où on peut envoyer toutes nos factures, de ce qui soit transport, matériel, quotidien. Et encore l'autre partie, c'est le budget médical, donc tout ce que la caisse de maladie ne prend pas en charge. Le comité olympique intervient aussi encore en plus là-dedans.
Au Luxembourg, les sportifs de haut niveau sont quand même relativement privilégiés.
Oui, bah c'est, comment je vais dire, ça dépend du, enfin, au niveau du comité olympique, tout le monde a à peu près les mêmes possibilités. Après, maintenant, si on parle au-dessus du comité des sponsoring et tout, ça dépend du sport. Parce que, par exemple, un triathlète ou un cycliste qui peut faire son sport au Luxembourg, alors les entreprises luxembourgeoises ont un intérêt à investir dans sportifs parce qu'ils font de la pub au Luxembourg, et alors ça attire de la clientèle luxembourgeoise. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt, parce que s'il y a un magasin de sport qui me sponsorise et que je fasse de la pub en Autriche, les gens d'Autriche ne vont pas aller acheter les skis au Luxembourg. Ça, c'est ça. Donc un peu, ça dépend un peu du sport, mais Généralement, je pense que quand même pour les moyens luxembourgeois, enfin pour les moyens luxembourgeois, pour le niveau du sport qu'on a, c'est que c'est super. On est bien content.
Alors c'est vrai, moi je suis français, ça fait qu'une dizaine d'années que je suis au Luxembourg et la première chose qui m'a frappé en arrivant, je suis triathlète, c'était de voir la qualité des infrastructures que vous aviez eu égard aux sportifs d'un niveau international. Alors évidemment, on a Dirk Bockel, enfin on avait Dirk Bockel qui était au-dessus du lot, mais malgré tout, quand on voyait les infrastructures qui existent, tu as cité la Coque tout à l'heure. Enfin, il y a des piscines quasiment dans une commune sur trois ici, et des piscines d'une qualité irréprochable dont tous les Français pourraient rêver. Il y a le Vélodrome de la Coque. Les conditions d'entraînement sont vraiment relativement propres. Voilà, là, on parle que du triathlon. Pour la bonne partie des sports au Luxembourg, on est quand même très privilégié en termes d'infrastructure.
C'est clair. Bon, ça a beaucoup changé aussi dans les dernières années. Parce que maintenant, vu que les résultats des sportifs deviennent toujours mieux et mieux, on a toujours plus d'intérêt à investir parce que voilà, c'est bien pour nous. Enfin, internationalement, ça améliore et donc on a envie que les sportifs deviennent toujours mieux. Et maintenant, il y a beaucoup qui changent, les infrastructures deviennent toujours meilleures. Et pour moi, c'est génial aussi parce que j'en profite aussi. Et l'été, je peux m'entraîner et tout. Et c'est chouette, quoi. Et avec le sport lycée aussi, les nouvelles infrastructures qu'on a, il y a beaucoup de sportifs qui en profitent, quoi.
Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de sponsoring, justement. Est-ce que toi, tu fais appel à des sponsors, à des partenaires?
Alors, non. Moi, j'ai pas de sponsor officiel. Donc, j'ai juste comme aide le comité olympique et la Fédération luxembourgeoise, et le reste est donc financier privé. Donc en fait, je n'ai pas de sponsor et j'ai pas encore eu de propose ou quoi ou etc. Comme j'ai dit, c'est compliqué au Luxembourg en tant qu'un sportif d'hiver qui ne peut pas vraiment faire de la pub pour ce magasin. C'est compliqué, quoi. C'est pas tellement intéressant pour les entreprises luxembourgeoises.
Bah, malgré tout, l'image du Luxembourg rayonne et puis ça pourrait quand même inciter les consommateurs luxembourgeois à se tourner vers tel ou tel produit ou tel magasin parce que bah, Mathieu Hoche utilise telle marque de ski, Mathieu Hoche utilise tel produit, telle chaussure et autres. Et puis en été, tu t'entraînes aussi en outdoor à Luxembourg. T'es pas tout le temps dans les montagnes.
C'est vrai, oui, ce serait une idée, mais probablement que les résultats ne sont pas encore assez bien. Donc, bon, il faudra appeler. Après, il faudra voir si je fais des meilleurs résultats. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir, je sais pas. Bon, pour le moment, je réfléchis pas trop à ça, quoi. Enfin, ça marche comme ça marche, donc c'est bien comme ça. Et peut-être qu'un jour, ça va changer.
D'accord. Donc, en gros, pour l'instant, là, tu profites de l'instant présent. Tu fais ce qu'il faut à l'entraînement. Tu as les moyens de financer. Et puis, avec les aides que t'apporte le comité, la fédération, ça suffit largement pour assouvir tes besoins quotidiens et pratiquer ton sport dans les meilleures des conditions.
Ça, c'est clair. Oui, je peux pas me plaindre, quoi.
Ok, alors là, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as 20 ans, donc tu es très jeune pour un sportif qui se lance dans une carrière professionnelle. Malgré tout, les carrières de sportifs professionnels sont relativement courtes. Dans le ski, je connais pas très bien, mais j'imagine qu'on va pas au-delà de 30-35 ans, sauf quelques exceptions.
Oui, voilà. Donc, en fait, on dit toujours l'âge optimal. Bah, ça commence à devenir toujours plus jeune, hein, avec toutes les possibilités que les jeunes ont aujourd'hui. Le matériel qui s'évolue et tout, ça devient toujours plus jeune. Mais il y a encore quelques exceptions qui, au lieu à 30, 35 ans, qui arrivent encore à être vraiment au top du monde. Et donc, mais je dirais, c'est entre 20 et 35 ans que c'est vraiment optimal, quoi. Donc, c'est assez court, mais voilà.
Et du coup, est-ce que tu as déjà pensé à ta reconversion? Est-ce que tu sais déjà le fait que tu n'aies pas besoin de sponsor pour l'instant et donc que tu vives au jour le jour avec ce que le comité olympique et la fédération t'apportent? Est-ce que ça te fait quand même te poser des questions sur ton avenir, sur ta reconversion, sur ta retraite? Qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ou 15 ans? Et même, qu'est-ce que tu vas faire si jamais cette année, tu te qualifies pour la Coupe du Monde, tu te blesses et tu peux plus skier?
C'est clair, c'est pour ça que pour le moment, je fais aussi des études par correspondance parallèlement à mon sport. Donc, parce que justement, je veux avoir une option B si jamais je me blesse et que ça veut dire que je dois terminer ma carrière. Donc c'est pour ça que je fais des études à côté. Bon, les études, c'est, comment je vais dire, c'est compliqué vraiment à côté parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Quand je rentre du ski, je dois me reposer, je dois manger, je dois faire mes skis, je dois de nouveau cuisiner. Donc il y a vraiment très peu de temps pour étudier, mais j'essaye le temps que j'ai de l'utiliser avec vraiment des trucs qui servent à quelque chose. Et même si c'est dur, il faut parfois mordre sur la chique et le faire, quoi. Et je pense que ça, c'est quand même un bon truc, les études par correspondance, parce que ça me donne aussi une certaine flexibilité et je n'ai pas de rendez-vous spécial et tout. Même si ça avance à un rythme très lent, c'est au moins déjà ça, quoi. C'est pas perdu.
Oui, c'est pas perdu. Effectivement, ça pourra toujours te servir. Alors, j'imagine qu'en plus, tu avais déjà un parcours qui était tout tracé, parce que tu nous as dit en début d'émission que ton père avait été sur le circuit mondial, ton frère aussi. Donc, eux sont peut-être déjà passés par là, par la case financement ou par la case reconversion. Donc, tu as peut-être aussi déjà une idée de comment ton futur pourrait se passer.
Oui, bien sûr. Je veux dire, dans le milieu du sport, il y a toujours plein de possibilités. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se donner. Après, on ne sait pas. Avec le temps, on apprend des gens, on apprend à connaître des gens, toujours plus de gens qu'on connaît, des connexions et tout. On ne sait pas ce qui est possible après. Donc, pour ça, je m'en fais pas maintenant, mais quand même, je veux avoir les études pour quand même après, si jamais il y a quelque chose qui m'intéresse, que j'ai la qualification à le faire, quoi.
Et alors, je sais que certains sportifs, enfin beaucoup de sportifs français et certains sportifs luxembourgeois que j'ai connus étaient passés aussi par la case armée, c'est-à-dire que ils étaient militaires, soit militaires de rang, soit officiers, et que ça leur permettait aussi de financer leur carrière de sportif de haut niveau. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as réfléchi ou pour l'instant vraiment tu prends la vie au jour le jour?
Alors c'est une possibilité. Je n'ai pas encore, la réflexion est pas encore très loin, mais le problème, c'est aussi avec les études. Est-ce que j'ai le temps à le faire? Est-ce que c'est possible et tout? Je me suis pas encore trop informé, parce que le problème, c'est aussi pendant cette phase où je suis à l'armée, je peux pas skier, je peux pas me préparer physiquement vraiment spécialement pour le ski. Donc c'est un investissement qui pourrait me servir ou pas. C'est une réflexion. Il faudrait que je réfléchisse sur ça. C'est peut-être une option. Qui sait? Comment, enfin, je veux dire, la saison est encore longue, donc on verra bien ce qu'il y a en fin de saison.
C'est cool. Non seulement tu nous as donné beaucoup d'idées, mais j'ai la faiblesse de croire que je t'ai donné quelques idées à toi aussi, d'aller chercher des sponsors ou de regarder du côté des possibilités de l'administration publique luxembourgeoise.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est une bonne idée. Oui, il faudrait que je réfléchisse plus. Bon, là, j'ai pas beaucoup de temps pour toutes les affaires, mais après la saison, qui sait, peut-être que j'aurai plus de temps pour tout ça.
Alors justement, une saison sportive, une saison d'un skieur, c'est pas toute l'année. Contrairement à un coureur, un cycliste, un triathlète, où la saison est plutôt longue. Enfin, je cite ces sports-là, mais j'aurais pu citer aussi des tennismen ou autres. Un skieur, en gros, vous skiez de septembre à avril.
Alors oui, enfin c'est, je dirais la saison, vraiment la saison avec les courses commence fin novembre jusqu'à mi-avril. Et après, souvent mi-avril jusqu'à mi-mai, on profite encore des bonnes conditions. S'il y a encore de la neige, pour vraiment encore faire quelques journées de ski, pour peut-être essayer du matos ou quoi. Et puis, il y a un gros bloc physique. Donc, de toute façon, d'abord, on a un peu besoin de pause. Donc, on fait 2 à 3 semaines vraiment relax, pas beaucoup. Et puis, on a le gros bloc physique qui commence. Donc, puissance, rapidité, tout ça, tout ce qu'on a besoin, endurance, etc. Et puis, juste de juin à juillet, août, on a peut-être 10 jours en total de ski sur glacier, sur en indoor. Et puis, mi-septembre, la saison sur glacier recommence. Donc, on a vraiment régulièrement, quand le temps l'admet, quoi, des conditions sur glacier. Donc là, on s'entraîne beaucoup aussi.
Quand tu es en intersaison, tu n'es pas sur des skis, enfin, tu n'es pas, en tout cas, tu n'es pas sur des compétitions. Est-ce que le financement du comité olympique et de la fédération continue? C'est-à-dire qu'il t'aide aussi si tu dois te déplacer, je sais pas, en Italie, au Pérou ou je ne sais où pour aller chasser la neige. Est-ce qu'il t'accompagne aussi là-dessus ou eux, ils t'accompagnent uniquement pendant la saison officielle de ski des compétitions?
Non, non. Donc en fait, le budget du comité olympique et de la fédération est annuel. Donc en fait, c'est le principe, c'est qu'en fait, pendant toute l'année, à la fin de l'année, je fais un budget, collecte tous les factures et tout, et puis j'envoie ça, et puis voilà, il me rembourse la somme. Et c'est ça peut être ça, c'est donc c'est toute l'année et c'est un bilan à faire. Et donc dans le bilan, il y a toutes les tout le quotidien qu'il y a à voir avec le ski, quoi.
Et est-ce que c'est un budget illimité?
Non, c'est un budget fixé dans le cadre qui est donc un peu différent pour tous les sportifs selon ce que les sportifs ont besoin. Et la fédération aussi, c'est un budget fixe. Et voilà, ça change d'année en année selon tes résultats. Donc voilà, ça peut s'améliorer, ça peut descendre. Et voilà quoi, il y a des critères à faire. Ça change toujours, quoi.
Alors la question qui fâche, est-ce que tu veux bien nous partager le budget cette année ou une fourchette ou tu préfères pas aborder ce sujet-là?
C'est pas encore le nouveau budget parce qu'il va sortir maintenant. Le budget, c'est plusieurs milliers d'euros maintenant. Je veux pas aller dans les détails, mais peut un peu t'imaginer ce que coûte une saison. Donc ils essayent de faire un budget fair quand même qui m'aide. Et voilà quoi. Mais la plus grande partie est quand même encore financée privée. Parce que une saison quand même coûte cher et donc le budget ne suffit toujours.
Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses et toute cette franchise. Mathieu, est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés ou est-ce que tu as des questions?
Bah non, je pense que j'avais bien expliqué le sujet. Je pense que tout est clair normalement. Voilà, comme je disais, donc il y a ces comités olympiques, fédérations. Ouais, je pense qu'on a tout dit en fait.
Moi, j'ai encore deux petites questions. La première, où est-ce que tu te verrais dans, allez, on va pas dire 10 ans, on va dire dans 20 ans?
Bah, j'espère que je serai encore en bonne santé, que je pourrai faire encore beaucoup de sport parce que c'est ma passion même, enfin tous les sports. Et j'espère que peut-être que j'aurai un job dans le milieu du sport. Je sais pas, ou peut-être ma propre entreprise dans un sujet sportif, et voilà, et que j'aurai une belle vie, quoi, que je pourrai faire encore tout ce que j'aime, et je demande pas plus, quoi.
Génial, en allant un petit peu sur les pistes dès que le temps le permet.
Voilà. Et peut-être aussi être en proximité des montagnes.
Bah, Etalbruck, pour ceux qui connaissent le Luxembourg, c'est des toutes petites montagnes, mais t'es pas loin de montagnes quand
Plus des collines, ouais,
même.
c'est pas les grandes Alpes, non.
C'est sûr. Une autre petite question. Si tu pouvais revenir en arrière et te glisser un petit mot à toi, le Mathieu, au moment où tu as pris la décision de switcher entre le volley et le ski, qu'est-ce que tu te dirais?
Que j'ai fait la bonne décision, je pense. J'aimais bien le volley aussi, c'est clair, mais il fallait être réaliste et c'était déjà ma réflexion à l'époque que justement je n'aurais pas atteint les JO aussi vite qu'avec le ski et je savais que c'était possible et donc si je pourrais revenir, je me dirais fais-le, que j'aurais pris la réflexion encore plus vite que j'aille ce chemin parce que c'est le meilleur que je pouvais faire.
Et une dernière question, est-ce qu'il y a une sportive ou un sportif que tu aimerais bien entendre dans ce podcast, donc pour parler un petit peu d'elle ou de lui et puis parler du financement de sa carrière? Alors tu as le droit de dire des Luxembourgeois, des Français, des Belges, peu importe, pour autant que ce soit un francophone.
Ok. Bah alors, bah j'ai francophone, j'ai des amis qui parlent bien le français, mais qui sont luxembourgeois, donc.
Oui, des Luxembourgeois ou pas, comme tu veux vraiment, une personne que tu aimerais bien entendre sur ce podcast.
Alors j'ai plusieurs amis encore de ma carrière en tant que volleyeur qui étaient dans ma classe et qui faisaient plusieurs de sports comme par exemple mon ami karatéka Jordan Neves, je sais pas si ça dit quelque chose,
OK.
et aussi qui est vraiment un top niveau et lui c'est déjà un pote d'enfance, enfin on se connaît depuis le début de lycée, donc si tu veux je te mets en contact aussi avec lui, ce sera certainement aucun problème. Et puis encore, encore un bon ami cycliste à moi, Tristan Parota, qui revient maintenant, qui est malheureusement blessé, mais qui est vraiment un top cycliste aussi. Et donc ces deux-là, c'est des bons amis à moi où je vois directement, qui seraient certainement ouverts et sont très sympathiques aussi.
Bah écoute Mathieu, merci beaucoup pour avoir répondu présent à cette invitation et tes réponses à toutes ces questions. Je te dis à très bientôt, j'espère alors.
À très bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup.
Félicitations, nous venons de refermer le troisième casier des vestiaires. J'espère que cet épisode vous aura autant plu que les deux premiers et qu'il vous aura procuré autant de bonheur que j'en ai eu moi à enregistrer avec Mathieu. Pour retrouver tous les détails de cet épisode, une seule adresse, vestiaire.info. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Salut les sportifs !